Juste dire à nos auditeurs, Luc, pour les amateurs de nostalgie, ta photo avec des cheveux longs, à l'époque où tu étais au cégep de Rimouski, se trône maintenant en tête de liste dans notre, sur la page Facebook du FM 93.
Mais je te dis une chose, Myriam. Notre producteur bien-aimé, un certain Yvon Bonneau, que nous adorons pour son humour et tout le reste, je l'ai mis au défi de m'envoyer une photo équivalente. Il vient de le faire.
C'est vrai?
Tu devrais voir le beau bonhomme.
C'était...
Je te dis que notre Yvon, dans le temps, waouh!
Ça te rajeunit pas, mais c'était l'époque où les téléphones, les numéros de téléphone n'avaient que 7 chiffres. Et c'était c'est... l'époque où on n'écrivait pas ton, ton courriel sur ta carte. Bon, ceci dit, passons aux choses sérieuses. La CAQ, ce matin...
C'était l'époque où on pouvait dire, écoute, tu n'as pas réussi à me rejoindre, c'est pas de ma faute. On
non,
peut plus faire ça.
Non, c'est ça. la CAQ continue à aller à un train d'enfer, quand même, je trouve, pour réaliser ses promesses.
Plan mécanique, je veux juste faire une... Je te le dis, là.
Oui.
En termes de prise du pouvoir et d'asseoir son pouvoir à Québec, la CAQ fait preuve de beaucoup de discipline. Dans ce sens-là, oui, je le compte.
Ils font ce
je conteste bien des affaires, là. Mais prendre le contrôle d'un gouvernement qui a été entre les mains d'un autre parti pendant pas loin de 15 ans, c'est pas une tâche facile. Mais il semble bien s'en sortir.
Et il faut reconnaître qu'il profite, d'habitude on a un 100 jours de lune de miel, là.
Oui.
Il profite des 100 jours de lune de miel pour faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, grosso modo, ou à peu près.
Ouais.
À peu près.
Les petites affaires qui ont servi beaucoup pendant la campagne.
Ceci dit, ils ont annoncé ce matin une réforme de la taxe scolaire, c'est-à-dire que dorénavant, dans toutes les régions, ça va être le plus bas niveau de taxe scolaire qui va s'appliquer partout.
Partout, oui.
Et on s'est poigné, toi et moi, l'autre jour, avec la présidente du syndicat de
Madame
la CSQ,
Étier.
Madame Étier, qui disait il faut maintenir la taxe scolaire puis au même taux qu'actuellement parce que on a besoin d'argent dans l'éducation.
Je te dis que les syndicalistes, ils savent comment se faire des amis, eux autres. Maintiens mes taxes, va pas m'enlever mes taxes, j'aime mes taxes.
Ce que la CAQ fait, ça va baisser quand même de 700 millions au total, la taxe scolaire. Ça va toucher plus certaines régions que d'autres. Je pense que Chaudière-Appalaches fait partie des régions les plus touchées parce que là où le rôle d'évaluation est le plus bas, faut que la taxe soit plus élevée pour arriver à donner le même montant. Aux commissions scolaires, soi-disant pour l'administration, etc. Mais il y a quelqu'un de l'Institut économique de Montréal qui avait déjà fait une étude sur la taxe scolaire, puis qui disait, regarde, le problème, c'est la taxe elle-même. Et il s'appelle Germain Belzile, il est au bout du fil. Bonjour, M. Belzile.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut économique de Montréal et vous avez, vous, étudié la taxe scolaire. Est-ce qu'il y a des raisons de la maintenir?
Mais je pense que la taxe scolaire, c'est une sorte de vieux souvenir du passé. Il faut comprendre que ça a été créé à une époque où il n'y avait pas de ministère de l'Éducation, où le gouvernement du Québec avait des revenus qui étaient très, très, très minimes, puis il n'y avait pas de système d'éducation au Québec. On parle des années 1840.
Donc, c'était une taxe qui permettait aux gens localement de créer une école de rang, par exemple?
Exactement, oui. En fait, en créant des commissions scolaires, en leur donnant la possibilité d'aller chercher un impôt foncier, on leur a permis de lever des taxes et donc de créer un système très décentralisé. Donc, chaque région pouvait créer des écoles de rang et puis comme ça, on pouvait avoir un système d'éducation sans même qu'il y ait un ministère de l'Éducation à cette époque-là.
Okay.
Alors maintenant, on est pas mal loin de cette époque-là, là.
Mais effectivement, maintenant, on a un ministère de l'Éducation, le système est extrêmement centralisé, et puis on a encore les commissions scolaires. Et puis, je pense que la grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a encore des commissions scolaires? Après tout, les écoles publiques, les écoles privées plutôt, se débrouillent sans commissions scolaires, donc les services qui sont rendus par les commissions scolaires, les écoles les produisent elles-mêmes, elles se regroupent pour faire des achats, entre autres, donc on ne demande pas aux commissions scolaires de le faire, les écoles privées le font, et puis elles font tout ça à un coût par élève qui est inférieur à ce qu'on fait dans le secteur public. Alors, je pense qu'on devrait remettre en question plus que la taxe scolaire, on devrait remettre en question les commissions scolaires elles-mêmes.
Bon, je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça, mais la CAQ d'abord avec ses racines adéquistes à l'époque de l'ADQ de Mario Dumont. Cette idée-là avait germé, avait même pris beaucoup de place dans des campagnes électorales. Débarrassons-nous des commissions scolaires. Et là, la CAQ semble vouloir les transformer en centres de services. Est-ce qu'ils ont perdu le focus qu'ils avaient autrefois, selon vous?
Ben, peut-être un peu. C'est déjà, je pense, une amélioration de fait qu'on va avoir un taux unifié. Mais à l'époque où elles ont été créées, les commissions scolaires, elles déterminaient le taux de la taxe de scolaire, elles construisaient les écoles, elles embauchaient les enseignants, décidaient des programmes scolaires. C'est plus le cas maintenant. Là. Le rôle des commissions scolaires s'est réduit beaucoup, beaucoup avec les années. Et puis, pourquoi les écoles ne pouvaient pas tout simplement administrer quelque chose de très décentralisé entre elles pour avoir un bureau régionalement, pour avoir un bureau de soumission, un bureau d'achat, un bureau de coordination. Et puis, on n'aurait pas toute l'infrastructure avec l'infrastructure démocratique aussi, à des élections aux 4 ans, où à peu près personne ne vote en plus, parce que les gens ne se sentent pas concernés par ça.
De toute façon, les commissaires scolaires, aussitôt qu'ils sont élus, ils se font dire « ferme ta boîte » parce que le code d'éthique, c'est qu'un commissaire scolaire ne peut pas parler.
Bon, en plus. C'est vraiment un relent du passé, hein. Et puis à mesure que le ministère de l'Éducation s'est développé, le rôle des commissions scolaires est plus ou moins disparu, a fondu, mais on a encore gardé cette entité-là. Et puis les élections, le taux de vote aux élections scolaires, c'est en général en bas de 10%. À Montréal, je sais que c'est même en bas de 5%, mais il y a des régions c'est un petit peu plus là, mais en général en bas de 10%. Alors on devrait se poser des questions. Est-ce que c'est légitime d'avoir ça? En plus, avoir une taxe sur l'alcool, sur les cigarettes, ça peut faire du sens. Ça crée des externalités négatives, ces produits-là. Mm-hmm. Mais avoir une taxe sur les immeubles, est-ce que ça fait du sens? Après tout, pourquoi on n'utilise pas tout simplement les recettes fiscales générales du gouvernement
pour financer
d'une façon ou de l'autre? C'est le gros de l'argent vient de là, de toute façon.
Okay. Le fonds consolidé, c'est ça que vous dites?
Ouais. Oui, tout à fait.
Dans le fond, l'origine de la taxe scolaire, c'est l'époque où les notables de la place disaient « je vais payer un peu plus que l'ouvrier pour qu'on construise une école dans le village. »
Oui, effectivement, c'est eux qui payaient les impôts fonciers, tout à fait.
Mais comme vous savez, au plan politique, M. Belzile, il y a un gros problème, et ce sont les commissions scolaires anglophones. Ouais. Ça, les anglophones ne veulent pas. Mais
pourquoi ils y tiennent tellement, eux autres?
Parce que c'est la dernière institution qu'ils disent qu'ils contrôlent vraiment.
Oui, je pense que vous avez raison. Effectivement, au niveau de l'image, au niveau politique aussi, c'est certainement un problème. Mais écoutez, qu'elles en gardent le nom si elles veulent, s'ils veulent. Mmh. Mais je veux dire qu'on arrête de taxer les gens pour ça. Et puis que s'il y a des régions qui veulent organiser des élections parce qu'ils y tiennent, c'est une élection qui est importante pour eux peut-être. Mais je veux dire, en général, au Québec, c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a passé son temps maintenant.
Monsieur Belzile, qu'est-ce que vous répondez à Mme Étier qui dit même si c'est une taxe injuste, vaut mieux la maintenir parce que ça donne de l'argent à l'État pour pouvoir financer le système d'éducation?
Normalement, quand on est économiste, on regarde ça un peu, là, on va plutôt privilégier les taxes qui sont moins dommageables et qui sont meilleures. Une taxe foncière, c'est une taxe qui décourage la rénovation domiciliaire, c'est une taxe qui décourage la construction, c'est une taxe qui n'a pas sa raison d'être. On a déjà des taxes qui sont sur une base beaucoup plus large, et puis le gouvernement, il y en a en masse de l'argent. Entre nous, le gouvernement du Québec, là, il manque pas d'argent. Il reçoit plus que 100 milliards de dollars par année en revenus. Alors, je suis certain qu'il pourrait trouver l'argent pour compenser les quelques centaines de millions de dollars qu'on paye en taxes au niveau municipal.
Donc, Mme Étier, elle ferait mieux de renoncer à la taxe scolaire puis de regarder le reste des dépenses gouvernementales.
Je pense, oui. Je pense que ça, c'est ce qu'on devrait faire. L'État ne manque pas de revenus. L'État dépense sans doute trop. Et puis, il devrait revoir un peu, peut-être, ses priorités. Et puis, je pense qu'une des choses simples qu'on pourrait faire, ça serait d'alléger le fardeau fiscal des gens au niveau de l'impôt foncier, de la taxe scolaire, qui est l'équivalent d'un impôt foncier. C'est comme un double impôt foncier, en fait, qu'on impose aux gens. Et puis, et pousser la réflexion un petit peu plus loin, se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin besoin des commissions scolaires? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un appareil qui est coûteux? Parce que ça coûte vraiment cher, les commissions scolaires. Hein?
Pourtant, elles passent leur temps, les commissions scolaires passent leur temps à se défendre. Puis ils ont quand même réussi à convaincre une couple de ministres qu'ils ont des frais d'administration très bas.
Ouais, ben, elles sont très bonnes dans le lobbying, ça y a aucun doute, là, mais demandons-nous comment ça se fait que les commissions, c'est-à-dire que les écoles privées n'ont pas les commissions scolaires pour leur rendre des services, et puis elles se débrouillent très bien sans ça, et même à un coût plus faible, global. Ça, un élève dans le privé coûte moins cher qu'un élève dans le public. Bon, vous me direz, peut-être que les élèves dans le public, en moyenne, sont un petit peu plus poqués ou ont plus de problèmes, peut-être, mais il y a certainement moyen d'avoir moins de bureaucratie et d'être plus efficace. Et puis, en fait, l'idée, c'est assez simple. C'est décentralisons donc les décisions plus au niveau de l'école. Les gens, au niveau de l'école, ils savent c'est quoi leurs besoins. Beaucoup plus.
Mais, M. Belzile, revenons au point de départ. L'annonce faite ce matin, c'est quand même un aspect, c'est quand même une chose positive, c'est ce que vous dites.
Oui, ben, je pense que c'est un premier pas. Au moins, on n'aura pas il y avait déjà un problème majeur. Hein. Des gens s'inscrivaient à les commissions anglophones plutôt que francophones, par exemple, parce que le taux de taxe était différent. Ça crée toutes sortes d'iniquités. Et ça crée des problèmes d'inefficacité. Ensuite, ça coûte cher percevoir cette taxe-là. Il y a des ressources qui sont mises là-dedans. Et puis déjà, si on a une simplification, c'est déjà une amélioration. Mais je pense que tant qu'à regarder ce problème-là, on devrait, je pense, aller un peu plus loin et puis se poser des questions de fond sur ça. C'est pas parce qu'on a eu besoin d'une institution dans les années 1840 qu'on a encore besoin de cette même institution-là en 2018, surtout avec le nombre d'institutions qu'on a créées autour depuis cette époque-là.
Rien n'empêcherait qu'on laisse les commissions scolaires anglophones continuer à exister s'ils les aiment, là.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a peut-être même un problème constitutionnel de ce côté-là.
Je pense qu'il y en a un. C'est pas vraiment mon domaine.
On pourrait pas les abolir?
Il y a une garantie des commissions scolaires anglophones, oui.
Ah, OK.
Ouais. Puis, je pense qu'au niveau constitutionnel, c'est peut-être problématique.
Okay. Mais les commissions scolaires francophones pourraient être abolies demain matin.
Oui.
Il me semble qu'il y a une province des Maritimes qui a fait ça une nuit. Le lendemain matin, les commissions scolaires n'existaient plus. Bonjour. Puis les enfants ont continué à apprendre.
En tout cas, M. Belzile, espérons que le gouvernement, qui, d'après son discours inaugural, veut faire de l'éducation sa priorité, vous entend. J'espère qu'il vous entende, parce que moi, je partage complètement votre point de vue.
Merci beaucoup, M. Belzile.
Merci beaucoup de l'invitation et au plaisir.
Au plaisir.
Merci, au revoir.
Germain Belzile est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, la fameuse taxe scolaire. Ça a été réformé ce matin pour qu'elle coûte moins cher. Là, il y a quelqu'un qui me dit, vous êtes en train de me dire que ça va augmenter dans mon coin? Non, ce que je comprends, c'est qu'ils prennent le taux le plus bas qui existe.
Il n'y a personne qui va augmenter.
Puis ils l'appliquent à tout le monde. Donc, si vous payez déjà peu, vous ne payerez pas plus. Puis si vous payez trop, vous allez payer moins.
C'est ça. Alors, il y a des gens qui vont être vraiment heureux, puis d'autres qui vont pouvoir dire, fini les augmentations de taxes scolaires. Alors, c'est au moins ça de jouer, là.
C'est ça.
Puis c'est 700 millions de dollars de plus qui se retrouvent dans les poches des contribuables et qui vont servir à dépenser, à investir, à faire des économies, à acheter des REER qui vont faire fonctionner la société. Et écoutez, M. Belzile, je trouve qu'il est très bon pour vulgariser l'affaire.
Ah oui.
Quand on comprend d'où ça vient, les commissions scolaires, on se dit, mais pourquoi on traîne ça comme un boulet?
Ça aurait dû être aboli en 62, quand on a créé le ministère de l'Éducation.
Moi, je me rappelle, Myriam, il y a quelques années encore, puis écoute, c'est un exemple absurde, mais il y en a ici aussi. En Grèce, quand la crise économique a pris, puis que l'Union européenne s'est rendue compte qu'ils leur avaient menti sur leurs chiffres depuis quasiment 10 ans, puis bon, tu te souviens de cette crise-là?
Oui.
Ils avaient découvert, en cherchant quelle place qu'ils pouvaient faire des coupures, que dans les années 50, il y avait eu un projet de assécher un lac pour faire un développement immobilier. Ça se faisait dans les années 50. Alors, pour consulter la population, ils avaient créé un bureau de consultation où il y avait une quarantaine de personnes qui travaillaient à temps complet. Le lac a été asséché vers 1959, puis on était en 2012, je pense, ou 2013. Il était encore là. Le bureau était là, puis les employés étaient là. Il n'y avait plus de lac à assécher, il n'y avait plus rien, mais il était encore là. Donc, la force d'inertie de ces bureaucraties puis de ces institutions, c'est incroyable. C'est incroyable.
Je suis surpris, nous écrit un auditeur, que Mme Étier ne demande pas le retour des inspecteurs scolaires et des cotisations supplémentaires.
Ah, je me souviens de ça, monsieur l'inspecteur.
Ben oui, ben oui. dans Les Filles de Caleb, est-ce que c'est pas son prétendant n'est pas l'inspecteur scolaire?
Je sais pas.
C'est il me semble que... Il me semble que... Oui, il me semble.
Mais moi, je me rappelle quand nos enseignantes nous disaient, là, aujourd'hui, les enfants, là, l'inspecteur vient, puis il faut qu'on y montre qu'on est capable de faire du calcul, puis d'écrire, puis tout ça. Puis on sentait l'enseignante, mais c'était une enseignante.
Elle était stressée.
C'était comme une grosse affaire dans son année. Là.
Oui, oui.
On pourrait les ramener, tiens, pourquoi pas.
Bien, on a les examens de fin d'année du ministère. Là.
De toute façon, ça va dans la philosophie des Québec solidaires et des autres. Et on pourrait tous travailler pour le gouvernement. Ils ont essayé ça en Union soviétique, ça n'a pas trop bien marché, mais... On pourrait l'essayer ici.
En tout cas, la CAQ a fait un petit pas. Un peu, c'est mieux que rien. Reste à savoir si le petit pas qu'elle a fait va lui permettre de ne pas faire les pas suivants.
Ouais, ça là. Puis l'affaire des commissions scolaires anglophones, faut pas minimiser ça. Faut pas minimiser ça du tout.
Il y a Raymond qui a aucune confiance en la CAQ, qui dit la CAQ se dépêche de faire des choses faciles pour bien paraître. Attendez le budget. Le vieux fonds arriéré de l'EDQ va apparaître. Ils pourront plus nous faire des arguments.
C'est quoi ça, le vieux fonds arriéré?
Je sais pas. Là, il a l'air de penser.
C'est clair qu'il est libéral, lui.
ça se pourrait.
Mais je ne sais pas c'est quoi le fonds arriéré de l'ADQ. L'ADQ avait même un aspect très moderne.
Oh oui, mais l'ADQ jetait aux poubelles ce genre d'institutions-là, comme la commission, les commissions scolaires et les CPE. Ils disaient, regarde, très bien les CPE, mais on donne l'argent aux parents, les parents décideront ce que les enfants
vont
en faire.
C'est en plein ce que je pense aussi.
Il est 13h37, petite pause.